1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. 4 plus 4 égale 8. 8 plus 8 égale 16. C'est la 16, la 16. Il est l'heure, l'heure.
Il est 19h.
C'est la 16.fr. La 16. Le 19-16, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité charentaise, sur la 16.
Bonsoir et bienvenue sur la 16. Pour ce nouveau numéro du 19-16, votre rendez-vous d'information en Charente, nous avons interviewé Maître Adeline, avocat en droit public du cabinet Adminis à Versailles. Nous lui avons posé des questions concernant la validité des élections municipales et sur la pertinence du site plaintecovid.fr qui invite les citoyens à déposer plainte contre l'État pour mise en danger d'autrui. Je vous souhaite une bonne écoute.
Le 19-16, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité charentaise, le dimanche à 19h.
Bonsoir, nous sommes ce soir en interview avec un avocat spécialiste du droit public que nous avons contacté par l'intermédiaire du site avocat.fr, qui est un site qui a été mis à la disposition du public. Et en ce moment, il propose 30 minutes de consultation gratuite avec l'avocat de votre choix. Nous avons essayé le système et Maître Adeline nous a contacté hier et il a bien voulu répondre à quelques questions avec nous. Bonsoir Maître.
Bonsoir.
Merci tout d'abord d'être avec nous à l'antenne de la radio La 16, la radio charentaise.
Avec grand plaisir.
Alors, nous, il y a plusieurs questions qui reviennent souvent depuis le début du confinement. Qu'en est-il des élections municipales ?
Alors, les élections municipales ont eu lieu, en tout cas le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020. Toutes les fois que l'élection a été acquise dès le premier tour, ce premier tour est définitif et donc il n'y a pas de nécessité dans les communes pour lesquelles ce premier tour sera le seul, de revoter puisqu'il n'y a pas besoin d'organiser un deuxième tour. Sur les 30 000 communes, 30 000 sur 36 000 en France, où le premier tour a été suffisant, c'est-à-dire où une majorité absolue s'est dégagée pour élire une majorité municipale, eh bien le seul premier tour suffira. Pour les autres, il y en a environ 6 000, dans lesquels un deuxième tour est nécessaire, ce deuxième tour va s'organiser plus tard. Alors, la loi qui était jusqu'à présent en vigueur, qui reste en vigueur, mais à laquelle on a dérogé par une autre loi qui a été le 23 mars 2020, la loi prévoit habituellement que le deuxième tour se déroule le dimanche qui suit immédiatement le premier tour.
Ce qui est habituel, oui, habituellement.
Ça avait lieu le 20 mars. Là, la loi du 23 mars 2020 déroge à cette loi et prévoit que le deuxième tour pourra être organisé plus tard, c'est-à-dire qu'on prolonge artificiellement le mandat des communes, enfin des élus, dans les communes pour lesquelles il faut un deuxième tour.
Donc tous ceux qui ont été élus, tous les conseils municipaux qui ont été élus, sont définitivement acquis. Ça risque pas de poser des problèmes ?
Alors, des différences de situation sont assez classiques entre les communes pour lesquelles il faut un deuxième tour et les communes pour lesquelles il n'en faut pas. Donc ça, c'est quelque chose d'assez traditionnel et d'assez classique. Ce qui est moins classique, c'est que il y a deux choses qui sont plus inhabituelles et qui sont de nature à bouleverser un peu le paysage disons les écrans d'équilibre habituels. La première chose, c'est que le taux de participation a été très faible, y compris au premier tour pour les communes dans lesquelles l'élection a été acquise. On a rencontré à peu près 20 points de participation de moins par rapport à un premier tour municipal classique, notamment 2014. Ça, c'est la première circonstance inhabituelle. Et la seconde circonstance inhabituelle, elle est liée au fait que les deux tours vont être, lorsqu'ils sont nécessaires, lorsque le deuxième est nécessaire, vont être distants, non pas de une semaine, mais de plusieurs mois. Et c'est-à-dire que le paysage politique peut avoir évolué entre le 15 mars 2020 et une autre date ultérieure dont on ne sait pas si ce sera juin. Aujourd'hui, j'entends parler d'octobre. Donc ça, c'est inhabituel. Alors, il peut y avoir des protestations électorales qui s'élèvent à l'occasion de ces circonstances exceptionnelles. Et on voit déjà apparaître des protestations qui viennent contester les élections déjà acquises, c'est-à-dire le premier tour, hein, celles qui ont été acquises dès le premier tour, que les autres n'étant pas définitives, elles ne sont pas contestables encore à ce jour. mais certaines contestations sont déjà nées pour ces communes-là, et d'autres naîtront sans doute pour les autres communes, liées à ce que on a donné à l'électorat deux discours un peu différents, un peu contradictoires. Le premier, confinez-vous, restez chez vous, et le second, vous pouvez sortir pour aller voter. Avec l'incertitude qui pèse effectivement sur l'électeur qui sort de chez lui, dans une ambiance épidémique, avec le risque qu'il court sans doute d'attraper le virus. Certains électeurs ont effectivement, par sagesse, préféré rester chez eux, et d'autres, par civisme, ont préféré aller voter. Bon, ça crée effectivement une disparité, une circonstance qui, dans certaines communes en tout cas, pourra être regardée comme ayant eu peut-être une influence sur les résultats du scrutin. C'est le juge de l'élection qui le dira.
Ça va être cas par cas, commune par commune, ou il n'y a pas un risque de qu'on se dise, voilà, on refait les élections l'année prochaine, toutes les élections, non?
Alors non, parce que cela supposerait que, si on disait, à supposer qu'on décide que toutes les élections municipales sont effacées, y compris pour les communes où le premier tour a suffi. Ça veut dire qu'il faudrait qu'une décision soit du pouvoir exécutif, soit du pouvoir législatif, plus vraisemblablement d'ailleurs du pouvoir législatif, donc une loi, vienne dire nous effaçons les résultats des élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on considère, nous, législateurs, nous, président de la République, que ce qu'ont dit les électeurs, la façon dont ils se sont exprimés, les circonstances dans lesquelles ils se sont exprimés, était telle que nous ne reconnaissons pas le résultat du scrutin. C'est-à-dire que par une décision, par une loi, on viendrait effacer l'expression de la volonté démocratique qui est quand même celle dont procèdent les pouvoirs qui sont institués, qu'ils soient exécutifs ou législatifs. Ça pose un vrai problème d'équilibre constitutionnel, ça. Donc je ne crois trop à cette hypothèse où, par une décision unilatérale, on viendrait effacer le résultat d'une élection. Je crois plus à des situations, effectivement, cas par cas, où lorsque les électeurs le souhaiteront, des protestations électorales auront été enregistrées devant les tribunaux administratifs, dont je rappelle qu'ils sont juges de l'élection pour les élections municipales, et où, au cas par cas, effectivement, en fonction de l'écart de voix qu'on aura constaté entre les différents candidats, rapporté à l'écart de points qu'il y a entre la participation 2020 et la participation 2014, le juge de l'élection déterminera en toute indépendance, à partir des griefs qui lui seront soulevés, si finalement il y a ou pas matière à annulation.
Merci Maître de nous avoir répondu à cette première question. Alors la deuxième question, c'est à propos d'un site qui est paru il y a quelques jours, et qui est un site dont je vous ai parlé hier et vous êtes allé jeter un coup d'œil. Mm-hmm. Qu'en pensez-vous de ce principe de faciliter le dépôt de plainte, de mettre ça à disposition du public, du grand public, comme ça, sans trop de garde-fous?
Je suis toujours favorable à ce que l'accès à la justice soit facilité, que l'accès au droit soit facilité. Toutes les fois que on peut, par les moyens de communication moderne, par exemple Internet, ou par une application, quelle qu'elle soit, développer finalement le fait que chacun puisse défendre ses droits, je trouve que c'est une bonne chose. Là où je suis plus réservé, c'est dans l'idée qu'un site se propose de rendre presque systématique et d'en faire presque aussi peut-être un porte-étendard le fait d'aller rechercher le maximum de plaintes. J'ai vu sur ce site qu'il se donnait pour objectif de réunir 150 000 plaintes,
oui,
qui auraient pour auteur des personnes se considérant victimes. Alors, victimes de qui? Victimes, d'après ce que j'ai compris, de l'État. Parce qu'il aurait, en raison de son inertie à gérer cette crise ou de son incapacité à la gérer, se serait rendu coupable du délit de mise en danger de la vie d'autrui. Bon, je suis assez réservé sur sur le caractère systématique dont cette démarche procède, parce que elle vise finalement à instrumentaliser des victimes réelles,
oui,
ou des victimes prétendu, vis-à-vis d'une situation dont on ne connaît pas très bien aujourd'hui les tenants et les aboutissants, ne serait-ce qu'au plan médical, mais c'est vrai aussi au plan juridique. Et donc, je suis assez dubitatif sur à la fois l'efficacité de cette démarche, sont bien fondées au plan moral, même si je comprends peut-être les raisons qui conduisent les auteurs de ce site à l'avoir mis en œuvre, je suis un peu dubitatif sur le fait qu'on puisse se donner pour objectif de réunir 150 000 plaintes contre l'État. Je trouve que ce n'est pas cela, l'accès à la justice. L'accès à la justice, c'est un État individuel, une victime individuelle qui, parce qu'elle estime que ses droits ont été bafoués, eh bien, exerce une voie de recours, une voie de droit vis-à-vis, en l'occurrence, du procureur de la République, en déposant une plainte. Il y a d'autres voies de droit, mais celle-là en est une. Et cette plainte doit avoir pour moteur vraiment une violation précise d'un droit et doit ensuite reposer, c'est l'affaire du parquet ou c'est l'affaire d'un avocat lorsqu'il est saisi avant le dépôt de la plainte, c'est une histoire de qualification juridique des faits. On ne peut pas comme ça lancer à la cantonade « allez-y, déposez plainte » et puis il en restera toujours quelque chose. Dans cette démarche, il y a quelque chose qui est effectivement qui procède de l'effet de masse. Et cet effet de masse, il est malheureusement incompatible, de mon point de vue, avec une justice rendue de la qualité qu'on en attend. Et je ne partage pas vraiment les objectifs qui sont, d'ailleurs que je ne connais pas, mais je ne partage pas en tout cas la méthode qui est employée, quel que soit l'objectif qu'elle poursuit.
D'accord, bah, merci, au moins la réponse est claire. Dernière question, est-ce que vous pouvez nous parler du site avocat.fr, le principe de fonctionnement de cette plateforme?
Bon, ce site, moi j'en suis utilisateur un peu comme vous avez pu l'être. Il y a deux types d'utilisateurs, il y a les utilisateurs qui sont litigiables, qui ont besoin d'un conseil juridique, et il y a les utilisateurs qui sont les avocats eux-mêmes. Tous les avocats qui souhaitent, dans cette crise sanitaire, des secours aux justiciables qui le demandent, et de manière gratuite. Ceci fonctionne aussi avec un fonctionnement payant classique, il existe depuis longtemps, mais pour les besoins de la crise sanitaire, en raison des questions juridiques que pose cette crise, les avocats se sont effectivement proposés, pour ceux qui le souhaitaient, de prêter leur secours, à leur modeste mesure, de cette manière, pour que les justiciables puissent avoir un accès à la fois rapide, gratuit, et aussi fiable, à une information juridique de qualité. Le Conseil national des barreaux a donc mis en place cette plateforme de mise en relation, et j'insiste sur le fait que c'est le seul site internet aujourd'hui en France qui garantisse l'accès à un avocat de manière fiable. Il existe des sites des sites marchands qui proposent aussi le recours à un avocat. Ces sites-là ont le mérite d'exister. Mais il existe aussi des sites qui prétendent donner aux justiciables un conseil juridique et pour lesquels, en revanche, il n'y a pas d'avocat derrière. Et où, finalement, le conseil juridique est donné par une personne dont on ne connaît pas bien les garanties de fiabilité, les garanties de diplôme et surtout les garanties d'inscription au tableau d'un ordre des avocats et les garanties en termes d'assurance lorsque un conseil est donné, l'avocat le donne en engageant sa responsabilité, et il l'engage aussi en sachant qu'il est assuré dans le cas où il se trompe, dans le cas où il commet une erreur, dans le conseil qu'il donne, dans l'acte qu'il rédige. La garantie de la profession d'avocat tient aussi au fait qu'au-delà de la fiabilité du conseil, il existe une assurance au bénéfice des justiciables. Et finalement, le site avocat.fr, parce qu'on en parle à la faveur de cette campagne d'information, depuis quelques jours, il est bon de préciser qu'il est le seul effectivement à offrir ces garanties, car on est sûr en allant sur avocat.fr que c'est bien un avocat inscrit à un ordre professionnel d'avocat qui va répondre à la question posée.
Je pense que nous avons fait le tour des questions que nous avions. Merci beaucoup, maître. Petit mot sur votre cabinet.
Ma spécialité à ce site particulier qui intéresse plus particulièrement les relations entre les administrations ou les relations des administrations avec les administrés. Et donc, si on veut relier ce métier avec la situation de crise que nous connaissons, l'actualité des questions qui nous sont posées en ce moment tourne beaucoup autour des reports de délais de recours qui ont été décidés par une ordonnance du 25 mars 2020, puisque finalement, lorsqu'on a 2 mois habituellement pour contester la légalité d'un acte administratif devant le tribunal administratif, que ce soit un arrêté concernant un fonctionnaire, un permis de construire, quelles que soient les autorisations données, ce délai de recours, en l'occurrence, est prorogé jusqu'à la fin de la crise sanitaire. Donc ça, ce sont des questions auxquelles on a à répondre en ce moment. Puis les justiciables nous saisissent aussi sur la légalité des arrêtés par lesquels ou les maires ou les préfets ont institué des couvre-feux dans certaines communes, restreignant donc l'exercice de la liberté individuelle, notamment d'aller et venir, après 19h, 20h, 22h, ça dépend des communes. Et nous sommes en train de travailler sur la légalité de ces arrêtés qui, même si on comprend bien les motifs qui ont conduit à les instituer, doivent aussi respecter dans leur modalité un caractère très limité dans le temps et dans l'espace pour contraindre le moins possible la liberté individuelle et en tout cas la contraindre tout autant qu'il est nécessaire pour éviter la propagation du virus. Voilà, donc que ce soit pour des justiciables qui nous interrogent sans forcément nous connaître avant ou pour nos clients habituels qui sont parfois des communes, nous avons à nous interroger sur les conditions dans lesquelles ces arrêtés peuvent être mis en place pour respecter la légalité, c'est-à-dire respecter autant que faire se peut la liberté individuelle, tout en préservant l'objectif pour lequel ils sont institués, c'est-à-dire l'objectif primordial en ce moment de santé publique.
Merci de nous avoir expliqué tout ça très clairement. Au moins, tout devient plus clair pour nous, qui ne connaissons pas grand-chose en droit, même pas, rien du tout. Et je vous remercie beaucoup, Maître, de nous avoir consacré ce quelques temps en cette période. Et puis, je vous souhaite un bon confinement et à très bientôt sur l'antenne de la 16. Vous revenez quand vous voulez.
Merci beaucoup. À très bientôt, à vous aussi.
Merci.
Le 19-16, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité charentaise, le dimanche à 19h.
C'était le quatrième numéro du 19-16, votre rendez-vous d'information en Charente. Rendez-vous dimanche prochain à 19h. Merci et bonne soirée sur la 16.